Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes. Donc c'était la page 797. Vous aurez besoin de suivre un peu dans le texte. Alors je vais prier pour commencer. Merci Seigneur, parce que quand ta parole est annoncée avec clarté et fidélité, c'est ta voix que nous entendons. Et Père, je veux te demander de m'aider ce matin à parler de manière claire, de manière fidèle, pour que ta voix soit entendu. Donne-nous des cœurs humbles, des cœurs réceptifs, des cœurs prêts à écouter ta voix. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous abordons ce passage bien connu, passage qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Et c'est un passage qui a un vrai souci pour la mise en pratique de la foi. Il veut nous parler de la foi authentique. Alors, qui n'est pas sensible à la mise en pratique de ce qu'on croit? Il y a quelques jours, Christine Lagarde, le chef du FMI, a été un peu épinglée par la presse après avoir exhorté la population grecque à payer ses impôts. Il est sorti, on a appris que son salaire n'était même pas imposable. Et cette question de cohérence, c'est une question sensible, ça nous travaille. C'est une question pertinente à juste titre. On ne peut pas dire à un enfant, fais ce que je dis et non pas ce que je fais. Ça ne passe pas. Nos enfants ne sont pas dupes, ils sont très perspicaces, n'est-ce pas? Ils ont un talent inné pour débusquer nos incohérences. Ils voient ce qui est bidon. Non, Dieu n'est pas un enfant, ça c'est sûr. Mais lui, il voit ce qu'il faut. Non, Dieu s'intéresse à la foi authentique. Et ça, c'est un peu ce que nous voyons depuis plusieurs semaines dans cette petite épître de Jacques. Il s'intéresse à la vie pratique, à une vie de sagesse. C'est un peu comme un livre de proverbes, cette épître. Cette épître contient, si on veut, trois cordes, trois thèmes qui sont étroitement liés, tissés les uns dans les autres. Ici, dans ce passage, nous voyons la corde qu'on peut intituler la corde pauvreté et richesse. Et aussi deux autres cordes, il y a la sagesse et l'épreuve ou la tentation. Et ces trois cordes forment les thèmes de ce petit livre. Donc richesse et pauvreté, sagesse et épreuve. Et la pauvreté est une épreuve. La richesse déclenche plein d'épreuves ou de tentations. Et nous devons vivre ces épreuves ou ces tentations avec sagesse, d'une manière qui plaît au Seigneur, qui découle de la grâce, de l'évangile de la grâce. Le passage que nous avons eu il y a deux semaines, donc c'est Michael qui a prêché sur ce passage. Ce passage-là nous parlait de la tentation de la partialité. Le passage nous a montré que notre Dieu n'est pas partial. Il ne juge pas selon les critères humains ou charnels. Chez lui, il n'y a pas de favoritisme. Il n'applique pas des règles différentes en fonction de la richesse, du statut social, de l'arrière-plan ethnique des gens ou du niveau d'éducation des personnes. Mais lui, dans sa sagesse absolue, aime de manière impartiale. Ça, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. Et c'est à cet amour évangélique qu'il appelle tous ceux qui ont mis la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un vrai défi. On l'a vu il y a deux semaines. L'Église, par le passé, a souvent fait fausse route. L'esclavagisme a été toléré, par exemple, voire justifié. Le système d'apartheid en Afrique du Sud a été justifié par certaines églises. Les riches ont parfois eu des places privilégiées dans les églises de la chrétienté. Alors, plus près de nous, nous l'avons vu il y a deux semaines, le défi n'est pas de privilégier l'un ou l'autre parce qu'il est plus riche, parce qu'il a un certain niveau d'études, certains arrière-plans, parce qu'il parle de manière plus élégante ou de manière plus forte. Le défi, c'est d'aimer chacun de manière impartiale. Et dans le ministère, d'utiliser les critères que Dieu nous donne, à savoir l'amour, la sagesse, les dons, l'édification. Non, Dieu est impartial. Ceux qui s'approchent de lui de ceux qui ont été sauvés par lui, par la grâce seule, deviennent comme lui, plus impartiaux. Et c'est dans ce contexte que nous avons vu il y a 2 semaines que Jacques nous parle ce matin de cette foi authentique. La corde qui est toujours en vue, c'est toujours cette corde de la pauvreté et la richesse. Jacques veut nous parler de la mise en pratique de la foi et de nos œuvres de tous les jours. Alors, je sais que ce passage, ce texte est difficile parce qu'au premier abord, il semble y avoir une contradiction entre ce que Jacques dit ici et ce que l'apôtre Paul dit dans ses écrits. Jacques va parler de la justification sur la base des œuvres et non pas sur la base de la foi seule. Ça, c'est dans ce passage. Et Josias nous a lu plein de passages où Paul, l'apôtre Paul, par exemple, Romains 3 et 4, nous dit que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Alors sans doute pour un certain nombre d'entre vous ce matin, vous ne savez pas trop de quoi je parle, et ce n'est pas grave, on va voir ça au fur et à mesure de cette prédication, l'étude de ce texte. Mais pour tous ceux qui pensent déjà à ce problème-là, qui disent « Ah tiens, c'est ce passage-là, qu'est-ce qu'il va dire ?» C'est vrai, formellement, textuellement, de manière, les mots, il semble y avoir une contradiction flagrante entre ce que dit l'apôtre Paul et ce que dit l'apôtre Jacques. Mais nous allons apprendre un peu ce matin comment lire la Bible. Comme pour toute communication humaine, il faut bien comprendre le contexte. Le contexte de celui qui parle. Il faut bien aussi comprendre comment l'auteur emploie, utilise des mots. Quelle est la définition des mots qu'il emploie? D'un livre biblique à un autre, d'un auteur biblique à un autre, ces définitions peuvent changer, peuvent être légèrement différentes. Et c'est souvent le contexte qui va déterminer ce qu'il veut dire exactement. Ce n'est pas juste la définition du mot dans le dictionnaire ou la définition en grec qui fait que voilà, c'est ça. C'est le contexte qui nous dit de quoi il parle. Alors, nous allons parcourir le passage étape par étape et laisser le texte nous conduire là où il veut nous amener. Alors, on va commencer avec ce qu'on voit au verset 14. Et la question que Jacques nous pose est la suivante. Donc, c'est au verset 14, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, les petits chiffres sont sont pour les versets, donc 14, et puis le grand chiffre, c'est le chapitre, donc nous sommes dans le chapitre 2 et au verset 14. Mes frères, que sert-il, frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi, ou littéralement dans le texte, la foi peut-elle le sauver? Alors ça, c'est une question importante, n'est-ce pas? Et dans un sens, Jacques s'appuie sur le bouton rouge, un peu ce bouton nucléaire. Si dans la section précédente, il parlait de notre vivre ensemble en tant qu'Église, ici, dans ce passage, il parle du salut éternel. Jacques va droit au but. Il met son doigt sur la question essentielle. Et ensuite, il nous donne un exemple concret, pratique, de ce qu'il veut dire par la foi sans œuvre. Il parle de ce cas concret d'un frère nu qui manque de nourriture, qui est dans la dèche totale. Si le chrétien devait lui dire « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous » sans pourvoir à ses besoins physiques, Jacques nous pose la question « À quoi cela sert-il ?» Jacques pose la question « À quoi cela sert-il ?» Mais en fait, il connaît déjà la réponse. C'est une question rhétorique. Pour lui, c'est déjà clair comme de l'eau de roche. Ça ne sert strictement à rien. Autrement dit, cette foi-là ne peut pas sauver. Une foi qui n'est pas accompagnée d'un vrai souci fraternel, un vrai amour fraternel, ne peut pas sauver le chrétien. Pourquoi? Parce qu'elle est morte en elle-même. Est-ce que vous voyez ça au verset 17? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Dans la section précédente, Jacques a parlé de la loi royale, nous l'avons vu il y a 2 semaines, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, dans ce passage, il vient de nous donner un exemple d'un soi-disant chrétien qui n'a pas aimé son frère comme lui-même. Loin de là. Dans la section précédente, Jacques nous a montré que l'évangile de la grâce change nos vies. La grâce nous donne un regard différent sur notre prochain, parce qu'on comprend la grâce que Dieu nous a montrée. L'évangile doit nous rendre profondément humbles. Que nous soyons riches ou pauvres, ben nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais dans sa grâce, Dieu nous a aimés. Nous qui étions loin de lui, hostiles à lui, pleinement déficitaires, fauchés, banqueroutes sur le plan moral. Nous étions beaucoup plus mauvais que nous voulions l'admettre. Mais en Jésus, nous sommes devenus plus aimés que nous ne puissions jamais l'espérer. Jacques nous dit qu'un chrétien qui se borne à se servir lui-même sans servir les autres, ben c'est un faux. Jacques nous dit qu'un chrétien orgueilleux qui méprise les autres par ses actes, par ses paroles, qui ne se soucie guère de leur édification, de leur bien, de leur protection, bah, il a une foi qui est morte. En quelque sorte, elle est mort-née. Cette foi sans œuvre, sans amour chrétien, est bidon. Elle ne sert à rien. Elle ne peut pas le sauver. Alors, dans les versets qui suivent, donc un peu à partir du verset 18, Jacques commence un petit dialogue avec un interlocuteur un peu imaginé. Et au cœur de le petit débat se trouve la question de si on peut séparer la foi et les œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Donc à partir du verset 18, Jacques nous dit « Mais quelqu'un dira, donc personnage fictif, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai. » Ma foi. En gros, Jacques nous dit que la foi chrétienne ne peut pas être séparée de ce qu'elle produit. Certes, ce qu'elle produit est quand même différent de la foi, mais la foi est identifiée, authentifiée par les œuvres qu'elle produit. Je répète, la foi chrétienne authentique est identifiée et authentifiée par les œuvres qu'elle produit. C'est bien une question de la foi authentique. C'est pour ça que Jacques nous donne cet exemple où il parle des démons qui croient en un Dieu unique, au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Jacques nous dit que même les démons savent que Dieu est un. Ils connaissent la vérité concernant Dieu. Comme les Juifs, ces démons peuvent dire ce que les Juifs appellent le Shemar, c'est-à-dire, c'est un peu la confession de foi qui se trouve dans Deutéronome 6, verset 4. Ils disent, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, il est un. Les démons savent ça. Ils ne sont pas ignorants. Ils reconnaissent pleinement la véracité de cette confession de foi, même s'ils ne mettent pas en pratique le commandement qui suit, donc à savoir, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La foi, si elle n'est qu'une confession de foi, n'est pas meilleure que celle des démons. C'est vrai, c'est très fort ce que Jacques dit. Jacques ne mâche pas ses mots. Et on voit que déjà Jacques s'intéresse un peu à la définition de ce mot, la foi. On peut parler de la foi. On peut dire oui, on a la foi. Mais si cette foi n'est pas une foi qui produit quelque chose, bah elle est morte en elle-même. Elle est diabolique. Et le verset 20 dit, en fait, dans notre version, le verset 20 dit qu'elle est morte, mais dans la plupart des versions, elle nous dit, ils disent elle est stérile. Donc, morte, elle est morte, diabolique et stérile. Une simple confession, certes orthodoxe, est morte, aride, stérile, pire, diabolique. Et ça nous aide lorsque nous pensons à ce que dit l'apôtre Paul par rapport à la foi. Ce que Jacques dit est vrai pour Paul aussi. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Galates que, en effet, je cite, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Pour Paul aussi, la foi authentique produit l'amour chrétien, les œuvres. Pour l'apôtre Paul, une foi qui ne produit pas l'amour du prochain n'est tout simplement pas la foi chrétienne. Et c'est par les œuvres qu'on voit cette foi véritable. Si ces œuvres ne sont pas là, la confession, aussi orthodoxe soit-elle, aussi évangélique soit-elle, est profondément suspecte. Une foi diabolique, comment peut-elle sauver qui que ce soit? Et la vie de notre ancêtre dans la foi, Abraham, confirme bien cette règle. Et comme pour le prouver, Jacques va faire appel à deux épisodes dans la vie d'Abraham. Alors, il faut dire que cette section n'est pas facile. Si je vous perds un peu en cours de route, ce n'est pas bien grave. On va voir quand même le message central qui on peut être dégagé à la fin. Alors, le premier épisode auquel il fait référence évoque la foi quand Abraham a offert son fils Isaac sur l'autel. Et ça, on peut lire ça, ce récit, dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 22. Le deuxième épisode, c'est celui où Dieu a dit à Abraham, « Parce que tu m'as cru sur parole quand je t'ai donné des promesses extraordinaires, je t'accorde, je t'impute, je te donne gratuitement une justice qui ne vient pas de toi. » Autrement dit, Abraham fut justifié, déclaré juste, acceptable aux yeux de Dieu, par Dieu, parce qu'il a cru Dieu sur parole. Et nous pouvons lire le récit de cet épisode-là au chapitre 15 du même livre de la Genèse, donc quelques chapitres plus tôt. L'épisode concernant Isaac sur l'autel, même s'il est mentionné en premier par Jacques, a eu lieu bien des années avant je comprends les deux maintenant. Ah, l'épisode concernant Isaac sur l'autel vient après la justification d'Abraham. Et Jacques nous dit que lorsqu'Abraham a suivi ce commandement, que Dieu lui a donné d'offrir son fils en sacrifice, cet acte par lequel sa foi a été mise à l'épreuve, sa foi a été rendue parfaite. Il a rendu complète ou parfaite. Est-ce que vous voyez ça au verset 22? Au verset 22, Jacques nous dit, « Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. » Alors ça, c'est un peu comme l'apôtre Paul lorsqu'il dit que la foi agit à travers l'amour. En offrant son fils, qui à la fin n'est pas mort sur l'autel parce que Dieu a fourni un bélier à la place, Abraham faisait preuve d'une grande foi, d'une foi complète, d'une foi parfaite. Ce fils Isaac était l'héritier des promesses que Dieu avait faites à Abraham de faire d'Abraham une grande nation. Mais face à cette requête que Dieu lui a faite d'offrir son fils, Abraham a décidé de croire Dieu et de lui faire confiance. Et sa foi si certaine en le Dieu qui ressuscite les morts a produit l'obéissance, une obéissance exemplaire. Et l'obéissance d'Abraham a confirmé ce que Dieu avait déjà dit des années auparavant. En vertu de sa foi, cette foi qui travaille, qui produit l'obéissance, la justice lui a été créditée. Il a été déclaré juste par Dieu avec une justice qui n'était pas la sienne. Son obéissance était tout simplement la preuve de la nature véritable de sa foi authentique. Abraham n'a pas gagné l'acceptation de Dieu par ses œuvres. Il n'a pas mérité son salut. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous montrer en nous disant que seule la foi en Jésus nous sauve. On est justifié par la foi seule, la foi en ce que Jésus a accompli à notre place, à la croix. Mais l'obéissance d'Abraham, bien des années plus tard, nous montre que sa foi était bien réelle. Il s'agissait de la vraie foi et non pas d'une foi morte, diabolique ou stérile. telle foi, si on peut même parler de foi, ne l'aurait certainement pas sauvé. Il n'aurait pas été justifié. C'est en vertu d'une foi qui agit, qui croit, qui fait confiance à Dieu, qui aime, qui obéit, qu'Abraham a été justifié, déclaré juste, acceptable par la grâce seule. C'était un cadeau. Alors, cette section a été difficile et un peu compliquée, n'est-ce pas? Et pourtant, son message est bien simple. La foi authentique produit des œuvres de l'amour, des œuvres d'amour, de l'amour fraternel. Et ça a toujours été le cas, même depuis Abraham. Et la tentation d'avoir une simple confession de foi stérile est tout aussi actuelle que jamais. Alors qu'en est-il de nous? Je pense que c'est un message qui est difficile à entendre. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous peuvent être troublés par moments par la question de l'assurance de votre salut. Vous pouvez parfois douter de l'authenticité de votre foi. Et c'est vrai que ce genre de passage peut nous déstabiliser. J'aimerais vous dire que je respecte votre questionnement. Et j'aimerais vous inviter à fixer votre regard sur Jésus. Votre foi est faible, certes. Mais son œuvre est bien suffisante pour vous sauver. Ce n'est pas la grandeur de votre foi qui compte, mais c'est la grandeur de son œuvre. Mais en tant qu'Église, nous avons besoin d'entendre l'avertissement solennel de Jacques. C'est trop facile d'avoir une confession de foi évangélique, d'adhérer à la confession de foi de l'Église, devenir membre d'Église, sans pratiquer l'amour fraternel, sans que la foi authentique produise de l'obéissance. En notre milieu d'église a parfois eu une fausse conception de la conversion chrétienne. On va dire parfois, dites cette prière et vous êtes converti, vous êtes sauvé à tout jamais. Alors la vie chrétienne commence souvent de cette manière-là, par cette prière. Et c'est bien de faire ça. C'est vraiment bien de faire ça. Mais il faut user de prudence. La foi véritable saisit la grâce extraordinaire, le pardon, l'amour en Jésus-Christ. Cette foi-là s'humilie devant le Seigneur et s'émerveille de sa grâce. Et à son tour, cette foi produit des actes de grâce, d'amour, de pardon à l'égard d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit seulement dans la durée. Alors, on ne devient pas des super chrétiens du jour au lendemain. On a tous énormément de progrès à faire, moi le premier. Notre foi est souvent balbutiante, et quant à l'amour fraternel, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons des progrès à faire. On peut faire mieux. Mais on peut remercier Dieu d'ores et déjà pour ce qu'il fait dans nos vies. Il est à l'œuvre. Et c'est Dieu qui produit ses œuvres en nous. C'est sa grâce qui produit par le Saint-Esprit le vouloir et le faire. C'est son œuvre. Et nous ne pouvons que lui rendre gloire et lui être reconnaissants. La foi authentique est un don. C'est lui qui nous l'a donné. Et cette foi qu'il nous a donnée se met à le servir. Lui qui nous l'a donnée par la grâce seule. Jacques veut nous donner un avertissement solennel, tout comme Jésus l'a fait dans son sermon sur la montagne. Jésus a dit quelque chose de semblable lorsqu'il a dit « Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. » Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Avertissement solennel. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est dans Matthieu 7, verset 18 à 23. Et comme pour le message de Jacques, le message de Jésus est fort, n'est-ce pas? Alors, comment peut-on terminer ce matin? Ah, ça n'avance pas. Alors, j'ai un cinquième point. Ressourçons-nous en fixant nos yeux sur Jésus. Ressourçons-nous en fixant nos yeux sur Jésus. J'aimerais vous inviter à tous à fixer vos yeux sur Jésus. Dans le passage précédent, celui que Michael a abordé il y a deux semaines, Jacques nous dit « Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Est-ce que vous voyez que notre salut est un don? C'est Dieu qui nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce que nous étions riches, beaux, moralement parfaits, obéissants, meilleurs que les autres. Non, il nous a choisis, point barre. Nous sommes les objets de sa grâce, n'est-ce pas? Il nous a choisis pour nous rendre riches en lui. Voilà ce qu'il a décidé. Il a décidé de nous donner gratuitement, par la grâce seule, l'entrée au royaume. Alors pourquoi? Ce texte ne le dit pas, mais dans d'autres textes, nous lisons que ce choix de Dieu démontre la gloire de sa grâce, la grandeur de sa grâce, la générosité de Dieu. La foi qui produit l'amour porte du fruit au fur et à mesure qu'elle se réjouit de la grâce de Dieu, au fur et à mesure qu'elle se délecte de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la nature imméritée de son choix. Jacques veut que nous entendions son avertissement solennel, non pas pour nous pousser au désespoir, pas pour nous pousser à douter de notre salut, mais pour que notre foi s'attache encore plus à Jésus. Jésus, l'auteur de notre salut. Et qu'en s'attachant à Jésus, à sa beauté, à son humilité, à sa générosité. Elle porte, la foi porte des fruits qui lui ressemblent, qui sont dignes de lui. Prions le Seigneur qui nous aide à fixer nos yeux sur lui cette semaine et à produire par la foi des fruits, des œuvres qui reflètent sa beauté, son humilité et sa générosité. Prions. Merci Seigneur de ce que tu ne nous as pas laissé dans notre ignorance, dans notre hostilité et dans notre désobéissance. Mais tu nous as donné un Seigneur, tu nous as donné un Sauveur qui a pris notre péché, qui a payé la facture que nous ne pouvions jamais régler. Merci de ce que justifié par la foi, nous sommes acceptables à tes yeux, tu peux nous donner ton esprit. Et merci de ce que cet esprit, par la foi, produit des œuvres de cette nouvelle vie, des fruits, des œuvres qui reflètent ta bonté, ta générosité. Merci pour la foi authentique. Père, nous savons que c'est un don. Elle ne vient pas de nous, on ne peut pas nous glorifier, on ne peut pas être fier de notre foi. C'est même un don pour que toute la gloire te revienne. Et Père, humblement, nous voulons te demander de faire fructifier cette foi en nous cette semaine. Fructifie cette foi pour qu'elle porte des fruits dignes de toi. Des fruits qui t'honorent. Que les paroles de nos bouches t'honorent. Que les pensées de nos cœurs t'exaltent. Que nos actes de tous les jours te glorifie. Père, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de plus de toi. Viens au secours de notre manque de foi. Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.
Merci Trévor pour ce rappel important. Et vous avez dû voir qu'effectivement il y a un lien entre la foi authentique et l'amour. D'ailleurs, Trévor a cité ce passage de Galates. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. C'est pourquoi je propose que nous terminions ce culte avec un cantique qui fait référence au commandement nouveau de Jésus. Et il le dit dans Jean chapitre 13, verset 34, mais nous allons le chanter. Donc, je vais demander à la chorale de venir. C'est un chant qui est très bien, qu'on apprécie beaucoup. Donc, la chorale va le chanter deux fois, mais vous êtes tous et toutes invités à le chanter aussi. C'est un chant qui est simple. Donc, je vous invite à vous lever tous, ceux qui peuvent. Je vous donne un commandement nouveau. Donc, une fois que la chorale l'aura chanté à deux reprises, tous ensemble, nous allons le chanter avec eux.